a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Oh, la vie va même. Soyez les bienvenus dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit, le dernier after de l'année 2018.
T'as intérêt à être bon, hein.
Bah, vous avez intérêt à être bon, les gars.
Surtout toi.
C'est toi. Daniel Riolo. Je vais te dire, là, je viens de me faire un super match de rugby.
Très bien.
Je suis chaud bouillant. Bonsoir Daniel Riolo.
Bonsoir les amis, bon Noël, bon tout ce que vous voulez. Enfin,
on peut le dire à la fin, ça.
Ouais, à la fin. Ouais, mais ça, l'originalité, c'est de faire un truc inattendu.
Ah ouais, effectivement. Ouais.
Eh oui.
Bonsoir Pierre Ducrot.
Bonsoir, bonne année alors.
Voilà. Ah non, je voyais Spack, là, c'est original.
C'est inattendu.
Non, ça, c'est inattendu. Non, mais ça marche pas.
Ah bon?
C'est trop.
Eh, par contre, j'ai une idée, si on faisait des matchs de rugby le dimanche soir plutôt, non?
Pourquoi?
Bah, je sais pas,
t'as marre des matchs.
Non, mais t'as kiffé, c'était un beau match.
Ouais. Je préfère le foot quand même, je te l'avoue.
Pourquoi ils sont pas bien les matchs de Ligue 1?
Pas tous.
Pourquoi?
Ah, le dimanche soir.
Parce que parfois, il y a des mauvais matchs.
Eh bah, dis-le alors.
Mais comme en Ligue 1, comme on sait rien, Daniel.
Ils sont pas bien les matchs.
Mais comme en Ligue 1, on sait rien, Daniel. Même en première ligue, parfois, il y a des mauvais matchs, je sais.
Même si c'est nous qui diffusons. Pourquoi, moi,
bien sûr. Ah, parce que les joueurs sont mauvais parfois, dans tous les championnats. Ça arrive.
Je vous donne quelques résultats.
Parfois, Daniel, on fait des mauvaises émissions, c'est pareil.
Ça a joué aujourd'hui en Ligue 1. Il y avait la dernière affiche de la 19e journée. Un partout entre Bordeaux et Amiens. On y revient dans quelques instants. Ça joue en Première Ligue également. Dernière affiche là de la 18e journée. Oh. Et alors, quel match? Victoire 6-2 de Tottenham, à Goodison Park face à Everton.
C'est sport de tennis.
Exactement. Ouais. Valence s'est imposé dans le temps additionnel face au dernier de la Liga, Huesca de Buzyn. Séville a arraché le point du match nul dans le temps additionnel à Leganés. Un partout, c'est Ben Yedder qui a marqué ce but. Et puis alors, de grosses affiches également au Portugal, les gars. Porto a battu Rio Ave 2-1. Le Benfica a fait un score de tennis face à Braga. Il y avait pourtant Braga était devant au coup d'envoi du match. 6-2 pour le Benfica. Et puis il reste.
Ça, c'est ta soirée, hein.
Ah non, pas plus que ça.
Non, bah,
ouais,
non,
justement.
Benfica qui gagne 6-2.
Ah, c'est Benfica qui a gagné, pardon.
Il n'y a rien mangé de la soirée.
Et Guimarães qui est en train de s'imposer 1-0 face au Sporting. On est dans le temps additionnel du match également. Ça veut dire que la Liga portugaise est complètement relancée. Mais ça, les gars, je sais que vous vous en tapez. On va débuter, tiens.
C'est pas vrai, Daniel.
Moi, je pense que Daniel est sans
top.
Si, Daniel est sans top.
Non.
Mais non, surtout quand ça, non, je suis pas d'accord. Mais on n'en parlera pas quand même.
Je me disais, c'est bizarre, tiens. Dernière affiche donc de la 19e journée de Ligue 1 cet après-midi. Un partout entre Bordeaux et Amiens. Bordeaux qui a marqué le premier à la 22e, c'est Kalou. Et puis égalisation toute fin de match de Gnaoré. Vous avez vu ce match, les gars?
Oui.
Du coup?
Oui.
Ouais.
Le match décalé du jour, celui-là on pouvait le regarder tranquillement parce que hier
il y avait rien
compliqué.
Il y avait le Everton Tottenham en même temps. Moi j'ai choisi Bordeaux Amiens.
Ouais. Non mais je disais pas.
Non mais c'était
c'est rare, on est plus du tout habitué à suivre les multiplex comme ça.
C'est vrai.
Quand t'as en même temps Paris, Lyon et Marseille qui jouent, je dis parce que c'est les clubs qu'on suit le plus et dont on parle le plus.
C'est dur. Hein.
C'est pas évident.
T'es frustré quoi. T'es frustré.
Mais en fait,
parce que le multiplex finalement tu vois rien.
La vérité c'est que multiplex, il y a une forme de nostalgie pour le multiplex parce que ça nous rappelle les soirées quand on était gamin et encore, on parle à des gens là qui ont pas connu ça. Non. Alors c'est vraiment pour les gars de notre génération, le côté, mais c'était un truc de radio. Très franchement.
Ouais, ouais.
Très franchement.
Et puis non, tu peux pas suivre les matchs, donc.
Bah, voilà.
Ouais. Non, mais quand Daniel Arrio, quand t'es à la radio, tu suis aucun match, de toute manière. Donc, t'as que les bus, et c'est pas mal. Donc, mais à la télé, c'est très frustrant, en multiplex.
Ça, moi, je me souviens, gamin, j'avais mes petits crayons, je notais mes scores. Mais là, aujourd'hui, franchement, ça fait pas triper du tout.
Et puis pour nous qui avons besoin
d'un match. Au match interro.
Je préfère sur un week-end voir le match de l'OM, le match de Lyon, le match du PSG.
Ah, mais c'est surtout là, que sinon, on a aucune utilité, non. Daniel. Dans l'analyse, on a aucune utilité.
Non,
de voir les buts et de savoir les résultats.
Je sais pas si, parce que le pire, c'est que ce sont des soirées qui sont vendues à part dans lot des droits télé. Et là, je me demande si vraiment les gens, d'ailleurs, je lance un appel, parce que peut-être qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus.
Non,
les gens qui regardent aiment ça.
Moi, je pense que c'est un autre public que ceux qui regardent les matchs en entier.
Non, il y a un côté qui est kiffant, tu sais ce que c'est? Bah, c'est qu'au final, le mec qui aime pas forcément regarder le jeu et attendre ou quoi, bah, t'as quasiment tout le temps un truc qui se passe.
C'est ce que je vous dis, c'est un autre public que celui des supporters avertis qui veulent voir le match de Lyon ou le match de l'OM.
T'es devant ta télé, t'es sur un match, il se passe pas grand chose, tu passes à un autre, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y aura un but, il y a une faute, il y a un péno.
Si t'aimes le foot, t'as envie de voir les
matchs. C'est ce que je te dis, Daniel, après, c'est comme dit Pierre, c'est un autre public.
Tu vas pas nous dire que le multiplex de Ligue 1, il se passe rien, quand même, aussi.
Hein? C'est pas Pierre, moi, je sais pas, moi. Je te laisse avec tes goûts.
Bon, ceci dit, Bordeaux Amiens, on était parti.
Oui, vas-y, ouais, vas-y.
Non, c'est moi j'ai
Bordeaux qui est 12e, hein, du coup, avec 22 points. Amiens qui est 17e avec 17 points.
Qui peut être frustré en même temps, le résultat nul est pas illogique parce qu'Amiens a fait une deuxième période plutôt intéressante. Ça a poussé. Mais Bordeaux avait tout ce qu'il fallait dans la première période pour s'imposer, pour sûrement se mettre à l'abri aussi. Il y a eu un ou deux coups qui sont pas du tout bien joués. Voilà, notamment un, je pense, où on doit continuer de décaler Briand sur le côté droit. Je crois que c'est Camano qui frappe, il me semble, plein axe. Voilà, donc Bordeaux peut être frustré parce qu'on sentait l'égalisation arriver parce qu'Amiens commençait la dernière demi-heure notamment commençait à se faire insistant et pressant et les Bordeaux ont eu la dynamique inverse tout le match, mais c'est dommage parce que moi j'ai vu un très bon Bordeaux en première période et aller pendant encore un quart d'heure en seconde, ça a pas été suffisant. Ouais, ça a joué côté Bordeaux. J'ai vu un très bon Jimmy Briand devant.
Ouais, mais Bordeaux peut-être
sa meilleure période pour moi.
Parce que tu les as suivis beaucoup en Europa League, ils terminent quand même une phase aller. Alors avec beaucoup de choses qui se sont passées dans le club, mais aujourd'hui ils sont 12e, 22 points. C'est un parcours avec à peine un peu plus d'un point par match.
Ils payent leur début de saison de manière pour l'instant. Parce qu'ils reviennent bien depuis deux mois.
Ouais, mais ils reviennent bien, mais enfin, ils sont plus dans le bon wagon. Ce serait vraiment surprenant. Je vois même pas comment ils pourraient revenir pour accrocher.
Ils sont à 8 points de la 5e place.
Moi, je dis pas comme toi.
Ils sont quand même loin.
Ça veut dire que devant, un paquet doivent s'écrouler quand même. Parce que là, si tu me dis, par exemple, à l'inverse, si tu prends une équipe, les fameuses équipes que j'appelle deuxième chapeau, Rennes, déjà à 26 points, eux, à la limite, là, avec ce qui s'est passé dernièrement, tu peux envisager quelque chose. Quelqu'un qui dérape devant et eux finissent par accrocher le bon wagon. Bah, Bordeaux.
Tu sais, Rennes à 4 points de Bordeaux, ça paraît pas fou. En plus,
ils peuvent pas tous y aller.
Daniel, un match de moins pour Bordeaux.
Non mais ils peuvent pas tous y aller.
Non, ils iront pas tous. Bon, mais aujourd'hui, je serais incapable de dire moi que Rennes a plus de chances que Bordeaux d'accrocher une 5e place, par exemple, tu vois.
Non, je les trouve mal barrés.
Rennes a eu aussi des inconstances. Alors ça a été peut-être plus diffus, tu vois. Ça a été parfois très bien, parfois très mauvais. Bordeaux, ça a été un très mauvais début, mais je trouve que depuis deux mois dans le contenu, ils sont vraiment pas mal que ce soit.
8 points de Saint-Etienne qui est cinquième.
Ah, c'est sûr qu'ils sont moins bien que ces équipes-là.
Ouais, mais bon, je trouve qu'ils n'ont pas chopé le bon wagon. Il y a beaucoup de déceptions dans cette phase aller des Bordelais. Il y a déception en Coupe d'Europe, déception en championnat, beaucoup de matchs où t'as l'impression qu'ils sont bons, puis en fait à l'arrivée ils sont pas si bons que ça.
Qu'ils sont pas si bons que ça à l'arrivée, c'est qu'il leur manque un but pour gagner à chaque fois et marquer des points. Et en Europa League, ça a été le même constat. C'est que les trois derniers matchs de la phase retour, ils sont pas mauvais.
Ils ont raté leur première phase. Arrivé, elle est complètement foirée.
En termes de résultats, oui, bien sûr.
T'es 12e. Et que t'es sorti en phase de poule de
En termes de résultats, bien sûr.
On va pas retourner le truc dans tous les sens. Bordeaux a raté sa phase aller.
Je suis d'accord avec toi.
Ils vont être obligés de vendre un mec.
En termes de points, oui. En termes de dynamique, quand la dynamique est bonne depuis deux mois, tu te dis que tu peux peut-être régler ce problème d'efficacité. Et sur une seconde.
La dynamique, elle va être cassée, ne serait-ce que par la trêve.
Pas forcément.
T'as mercato, t'as la trêve. Enfin, il y a des choses qui peuvent se passer.
Ça peut ne pas être cassé.
Ah bon.
Tu penses qu'ils perdront forcément un joueur Bordeaux?
Ils sont là pour ça, les proprios.
Je suis pas persuadé que tout de suite là maintenant ils perdent des joueurs en cet hiver. Ouais, je suis pas. L'été prochain, je veux bien t'entendre. Pour ça, mais là cet hiver, je suis pas persuadé
de Bordeaux.
Alors hier, il y avait pas mal de matchs justement parce qu'il y avait tous les autres matchs de cette 19e journée de Ligue 1. Je vous donne quand même les équipes de tête. Je vais vous donner les 10 premières parce que c'est très serré. Enfin, c'est relativement serré. Le PSG leader avec 47 points. Derrière, on a Lille avec 19 matchs et 34 points. C'est important le nombre de matchs parce qu'avec les matchs reportés. Ça fausse pas mal les choses. Lyon est troisième avec 18 matchs et 32 points, donc ils ont 2 points de retard sur Lille, mais un match en moins. Montpellier est quatrième avec 17 matchs joués et 30 points. Avec 30 points et cinquième, on a Saint-Etienne, mais qui a un match en plus par rapport à Montpellier. Sixième, Marseille avec 27 points, mais avec 17 matchs joués. Septième, on a Strasbourg avec 26 points. Alors avec 26 points, d'ailleurs, on a Strasbourg, Rennes, Reims et Nice. Voilà, avec Strasbourg et Reims qui ont joué leurs 19 matchs et Rennes et Nice qui ont un match.
T'as oublié de signifier que le PSG avait que 17 matchs aussi.
Comment? Mais là, bon.
Le PSG, 17 matchs aussi.
Oui, mais
potentiellement, ils peuvent être à 53.
Mais là, avec à la fin, là, cette trêve, avec les matchs en retard et les rééquilibrages qui doivent avoir lieu, l'équipe qui est finalement un peu perdante sur la fin de cette phase aller, c'est Lille, hein, parce que eux, ils sont complets. Et derrière,
Lyon est à 4 points avec un match en moins.
2 points.
Non, Lyon, ils sont à 2 points.
2 points de
Lyon. Lyon est à 2 points avec un match en moins. Montpellier a 2 matchs en retard et ils sont à 4 points.
Ouais, mais ils sont là où ils doivent être, Lille. C'est bien.
Non, mais sur les matchs là avec les, eux, ils sont en compte plein, finalement. Ils peuvent se faire dépasser par les équipes qui ont les matchs en retard.
Oui. Ça va être long encore.
La défaite d'hier a été très surprenante, inattendue et peut-être le signe. Parce que moi, sur ces dernières semaines, Lille, j'ai pas trouvé.
Il y a eu du moins bien, et puis il y a eu des sursauts à chaque fois qui te font croire que ça repart, et puis derrière, il y a...
C'est nettement moins bien, et pas, en fait, que depuis une poignée de matchs.
Non, ça fait 6-7 matchs, que c'est plus dur, notamment moins physiquement. Ne serait-ce que ça, déjà.
Juste avant de revenir sur ce resserrage du podium, finalement, et je sais que tu voulais développer l'idée, Daniel, que bon, bah, finalement, il y a du suspense, mais pas forcément du spectacle. Il y a Gino, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Il voulait réagir à ce qu'on disait il y a quelques instants. Salut, Gino.
Salut à tous.
Bonsoir. Alors Gino, est-ce que toi, comme Pierre, tu te dis que l'Europe c'est jouable pour Bordeaux cette saison?
Si on continue comme ça, non, absolument pas. Je pense que ça va être très compliqué. On l'a vu au niveau foot, au niveau technique aujourd'hui, ça a été catastrophique.
Oh, donc, je suis pas d'accord, Gino. Tu peux pas dire que la première période de Bordeaux est catastrophique techniquement aujourd'hui.
Ouais, mais un match c'est 90 minutes.
La mode en Ligue 1, c'est d'analyser que des mi-temps.
Mi-temps, on l'analyse pas, ils sont dans le vestiaire à la mi-temps.
Lyon ne joue que des mi-temps. Marseille, quand t'entends la plupart du temps, quand Rudy Garcia parle, comme encore hier, bah c'est une mi-temps oui, une mi-temps non. Il y a un paquet d'équipes qui ne jouent que des mi-temps. Pardon, regarde.
Nous, dans l'analyse, on est bien obligé de le dire, ça.
Ouais, mais je comprends pas, ces équipes.
Donc c'est pour ça que j'ai à Gino. Aujourd'hui, la première période, enfin Gino, dis-moi, mais la première période, tu l'as pas trouvé catastrophique techniquement de Bordeaux quand même.
Tu peux dire ça, mais à l'arrivée, tu peux pas dire qu'ils font un bon match. C'est demi-temps un match.
Mais c'est bien pour ça que je parle de la première période.
T'as Marseille qui fait ce coup-là. T'as Angers hier. Ils font une première mi-temps incroyable contre l'OM. Franchement, ils vont de l'avant, ils les prennent à la gorge, ils mettent le but. Bon bah maintenant on va reculer et puis on va attendre. Exactement. Et puis finalement, l'égalisation elle vient. Et franchement, on sentait qu'elle allait venir. Bah, quand même, quoi. Lyon à Montpellier, la même. Je comprends pas, moi, ces équipes qui, elles marquent, elles changent complètement de tactique, elles reculent, elles se mettent à attendre, elles ne jouent que des mi-temps. Bon, alors Lyon, ils l'ont quasiment fait sur toute la phase aller. Je comprends pas ça. Moi, ça me dépasse. Strasbourg a été spécialiste aussi, pas hier, mais sur les dernières semaines, on avait analysé ça également. J'arrive pas à comprendre qu'on fasse une mi-temps et après c'est tout. Soit on change de tactique, on était offensif, on devient défensif. T'as un peu de continuité, un peu d'ambition en continu, un peu de volonté, un peu de détermination. C'est fou ça. Alors tu parles du suspense. Ouais, effectivement, il y a un vrai suspense là. Mais tu regardes la qualité des matchs et tout, le championnat de cette année. T'as aucune équipe qui a 2 points par match. Alors que l'année dernière, je crois que t'en avais 3 ou 4. L'année d'avant, ça marchait bien aussi.
Tu veux dire que c'est nivelé, mais par le bas, quoi.
Bah évidemment que c'est nivelé par le bas. Et qui va te dire que c'est nivelé par le haut? C'est un suspense de supermarché, quoi. C'est pas un suspense de traiteur.
Pierre. Hein? Non, faudrait regarder. Non, je voulais laisser répondre Gino, parce que je l'ai interrompu, du coup il a perdu la parole. Mais la première période des Girondins, on est bien d'accord, elle est pas catastrophique techniquement aujourd'hui, Gino.
Non, mais il y a des joueurs qui sont pas au niveau, pas du tout. Tu prends par exemple Pungé à gauche, latéral gauche, c'est catastrophique.
Alors je suis d'accord avec
Pungé, mais Pungé, je l'ai 10 000 fois, je sais même pas comment il a pu faire une carrière à ce niveau, il sait pas jouer au foot.
Non, mais voilà. Après,
ça c'est pas nouveau, on découvre pas quoi. Et on le met là parce qu'il court et puis voilà, c'est tout. Et parce qu'il gagne des duels éventuellement. C'est au mieux ce qu'il peut faire.
Oui. Enfin, il en a perdu pas mal aujourd'hui, vu le but.
Oui, voilà. Quand il réussit son match, c'est qu'il a gagné des duels et qu'il a mis des sacoches dans le ballon, quoi.
Mmh. Oui, il fait pas un bon centre. Malheureusement, c'est des mecs qui sont trop limités.
Quand tu veux qu'il fasse un centre, on y a pas appris, visiblement.
Vous exagérez quand même.
Mais t'as vu comment il traite le ballon, Pierre? C'est hallucinant, encore ça.
C'est limité.
Mais il y en a plein. Je sais pas, les mecs, comment ils les forment. Non, les mecs avec le ballon, ils savent
pas quoi
faire.
À Bordeaux, honnêtement, aujourd'hui, et notamment sur la première période, après, la seconde est différente. Je suis d'accord avec toi, Gino, mais la première période, notamment, elle est loin d'être mauvaise. Elle est même bonne pour moi. Il y a du jeu. Il y a un très bon brillant devant. J'espère que tu l'as noté quand même, qui a quasiment négocié tous ses ballons correctement en déviation. Il a calé les ballons, etc. Il y a eu un bon Calou aussi. J'ai vu un bon Lerager en première période également. Pablo qui tient qui est toujours très très serein derrière en première période, il l'était aussi. Enfin voilà, moi j'ai vu des Girondins plutôt très à l'aise en première période. Après en seconde, ça a été différent. C'est
Pablo qui est sorti sur blessure d'ailleurs pendant le match. Hein.
Mais c'est pas grave apparemment. Le talon, mais pas très grave.
Et on pourra parler aussi de l'attitude de Camano qui fait un non-match total. et qui sort sans saluer personne et qui part au vestiaire. Donc Camano, il peut aussi partir en Angleterre ou je sais pas
ça
où.
J'ai pas vu. Ouais.
Parce que un mec comme ça qui fait 3 mois bon et qui après se prend pour je sais pas qui, nous on en a pas besoin au Girondin quoi.
Oui, mais Gino,
c'est lui qui oublie Brillant, je crois, sur une occasion qui
Gino,
fait mal d'ailleurs.
Plus globalement, ça c'est une déformation de la politique sportive de maintenant la plupart de nos clubs qui sont engagés dans ce terme de processus. C'est très difficile d'en vouloir un mec comme Camano qui de toute façon sait à l'avance qu'il n'est que de passage. Bordeaux est le cadet de ses soucis puisqu'il est là pour se faire remarquer et qu'il sait que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt du club qu'il se fasse remarquer et acheter à l'étranger. Donc si en fait c'est très compliqué même de lui dire pourquoi tu fais
mais
ça.
T'as le droit de jouer quand même tes matchs.
Ouais. Salut les mecs. Ouais.
Je pense que c'est
si vraiment ça s'est passé comme ça.
Mais Nico, c'est la déformation de ce système. La déformation fait qu'en fait tu ne deviens qu'un employé de passage.
C'est sûr que Malcolm a été un très bon exemple.
Voilà, tu ne t'investis pas dans mais ça pourrait marcher dans n'importe quelle entreprise hein. Si demain le mec il va bosser dans n'importe quelle, s'il sait qu'il est là que 15 jours et que
de toute façon,
c'est que il va s'en aller, mais il va pas dans quel projet tu t'impliques. Maintenant c'est comme ça, il y a beaucoup de clubs, c'est ça. Monaco
oui,
là c'est Monaco
sportive.
C'est
attends,
l'exemple
Daniel.
Absolu le pavillon témoin complet cette année.
Gino.
Les mecs s'en cadrent mais complètement.
Oui, mais si t'as une vraie direction sportive avec un directeur sportif et un entraîneur qui font que ben il y a un cadre qui est établi par le club. Excuse-moi, mais ton club il peut faire autrement.
Ouais,
il y a
mais Dino, c'est compliqué malgré tout parce que les joueurs n'ignorent pas la politique sportive. Même si tu as l'entraîneur et le mec qui vient tous les jours, qui dit faut se motiver, faut machin. Le mec il le sait qu'au mois de janvier ou au pire au l'été il va se casser. C'est quasiment acté, c'est sûr. Il a même pas besoin d'être bon sur 9 mois puisque aujourd'hui les mecs qui viennent voir les matchs savent que déjà les fiches sont tellement bien tenues et tout, ils connaissent les qualités du mec, il l'a fait sa bonne saison Camano ou sa demi bonne saison. Ça suffit aujourd'hui, t'es déjà comme on dit sur les tablettes, on sait ce que tu vaux, on se dit quand il ira dans l'autre club, il bossera différemment, peut-être qu'au lieu de faire 3 bons matchs, il en fera 6, pas de problème. Tu vois, c'est une déformation totale du système.
On remercie Gino de nous avoir appelé au 32-16. Bonne fête à toi, Gino, dans quelques instants. On va faire le débat sur le podium. Tiens, la course au podium qui est resserrée. Alors, à défaut d'avoir du spectacle, on a du suspense, va nous dire Daniel Riolo. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMCLive. Tu veux le redire ou pas?
Non,
tu veux développer?
On peut
développer ou pas?
Écoute,
est-ce qu'on peut écouter
plaisir.
Pierre Ducrot là-dessus?
Exactement.
Voilà,
ça, c'est
juste important. Après ça.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. On vous rappelle que cet après-midi, Bordeaux et Amiens ont fait match nul. Un but partout. On vient d'analyser ça avec vous deux, messieurs. Et cette fameuse course au podium qui est resserrée, qui est relancée. Alors, pour répondre à ce que disait Daniel tout à l'heure, Pierre, donc Daniel disait en gros, bah voilà, défaut d'avoir du spectacle, on a du suspense, quoi. Tu partages cet avis?
Oui, bien que on ait eu aussi des matchs spectaculaires avec ces équipes-là, avec Lille, avec Lyon. Alors malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des bons matchs de Montpellier aussi, on a eu des bons matchs de Saint-Etienne. Alors oui, si on veut que des bons matchs, non, bien sûr que non. J'ai avoir du mal à défendre cette cause-là, ce serait pas cohérent.
Ce sont des bons matchs, c'est que t'as des équipes qui ont 34, 32, 35.
Ouais, ça n'a pas été régulier, ça a manqué de régularité.
C'est pas bon quoi.
Ces 5 équipes de tête tirent le championnat vers le haut. Il aurait fallu que ces 5-là soient un peu plus régulières et soient aujourd'hui à une petite quarantaine de points plutôt que d'être à une trentaine de points. Mais voilà,
comme je dis toujours que le PSG se balade avec autant de points.
Oui, ça y est, on en a fait notre affaire, c'est fini.
Mais derrière, que Lyon soit à 15 points, c'est inadmissible.
Est-ce que c'est parce que effectivement Lille, Montpellier, Saint-Etienne font perdre des points aux équipes comme Lyon, Marseille, que tout se resserre et qu'ils n'arrivent pas à suivre le PSG, peut-être.
Non mais Lyon.
Ton souci, toi, c'est de me dire en fait que si Lyon et Marseille perdent des points, c'est pas parce qu'ils sont Lille, Montpellier, Saint-Etienne sont plus forts, c'est parce qu'ils sont eux moins forts.
Parce qu'ils sont pas bons.
Ouais.
Après,
moi, je vois
des bilans pareils.
Moi, après, je vois un meilleur Lille.
Tu as vu les matchs?
Oui,
t'as bien vu que Marseille, surtout Marseille, mais
ça manque de régularité de manière très clairement. Non, alors Marseille, je le mets à part parce que Marseille, ils sont vraiment pas bien cette saison. Voilà, ils arrivent à être là.
Ils ont déjà 4 défaites à une époque en Ligue 1. Alors, tu vois, moi, je veux bien.
Ouais, non, mais
faire le défenseur en Ligue 1 perpétuel.
Non, c'est pas faire le défenseur Ligue 1 perpétuel,
c'est
essayer de dire que Lille cette année fait une bien meilleure saison que l'année dernière. Et heureusement pour eux, parce que l'année dernière c'était catastrophique.
Ils ont 5 défaites.
On peut peut-être aussi
déjà
le considérer.
À une époque, en Ligue 1, les gros,
le deuxième
ils perdaient
de Ligue 1, 5 défaites quand même déjà.
Ils perdaient 3-4 matchs maxi, à les gros, à l'époque.
Ouais, ouais,
maintenant, ils se sont affaiblis. Parce que... Mais c'est même pas qu'ils se soient affaiblis. Parce
que ça change aussi.
Ils jouent entre eux. Moi, je te parle même pas de jouer contre les équipes étrangères. C'est que les équipes sont pas concernées complètement. Il y a pas une dynamique de régularité.
Ils sont pas concernés par leur championnat. Les joueurs sont pas concernés, tu veux dire?
Mais à partir du moment où tu fais une mi-temps sur deux, c'est que t'es pas à bloc.
Ouais, non,
bah forcément.
Cette irrégularité, elle a forcément une cause.
Mais ça, c'est un défaut, l'irrégularité. C'est un gros problème, l'irrégularité.
Je sais bien, après, je suis pas persuadé que les équipes françaises étaient plus régulières avant. Honnêtement, je suis pas persuadé qu'elles étaient plus.
Regarde les chiffres. Tu verras bien que
c'est compliqué. Ouais, mais tu vas avoir du mal à m'expliquer qu'aujourd'hui, c'est pas parce que Lille ou Montpellier, par exemple, sont plus costauds ou plus forts que défensivement ou offensivement. Offensivement pour Lille, défensivement peut-être pour Montpellier, que Lyon et Marseille, etc. Et encore que Marseille cette saison, je le mets à part, mais que Lyon perd des points aussi peut-être. Contre qui ils ont perdu leurs points, Lyon? Ça serait intéressant de regarder.
Mais tu veux vraiment voir les équipes de merde contre qui?
Ouais, c'est possible. Peut-être que t'as raison.
Tu t'en souviens pas alors.
Peut-être que t'as raison. Je sais plus. Les quatre défaites de Lyon, c'est contre qui?
Moi, bah, j'étais donné.
Non mais je vais pas te mentir, je sais plus. Ils ont perdu exactement. Mais
le fait est qu'à mi-saison, le deuxième du championnat de France raconte déjà 5 défaites quand même.
Ouais.
C'est pas forcément une bonne nouvelle, tu vois.
Non, et encore que, enfin, tu peux toujours regarder des chiffres. Montpellier, qui est quatrième à ce moment-là, donc qui est deux positions derrière, a perdu que trois matchs à ce moment-là. Voilà. Si tu veux regarder que des chiffres, par exemple. Je sais pas, c'est...
Alors, défaite de Lyon en championnat, il y a eu Reims, il y a eu Nice. Donc ça, c'était en début de saison. Il y a eu le Paris Saint-Germain, le fameux 5-0.
Il y a eu Rennes à domicile, 2-0.
Voilà.
Il y a eu Rennes à Rennes ou?
Rennes à Lyon.
À Lyon.
2-0,
À Lyon.
Paris, on le met à part, ce match, on le sait.
Il y a eu
donc finalement t'en as
non,
plus
t'as eu, c'est ça t'as eu Nice
t'en as plus trois t'en as plus que trois Nice c'est peut-être
nuls,
pas Nice c'est peut-être pas voilà
Oh bah OK bah c'est formidable Pierre
non c'est pas formidable je dis pas ça mais que Lyon aujourd'hui puisse perdre contre Nice c'est pas non plus parce que Lyon est bidon
quoi par match c'est fantastique voilà
non je dis pas ça je dis peut-être que d'analyser un chiffre comme ça c'est peut-être dangereux c'est tout est-ce que c'est pas aussi parce que Montpellier Lille Saint-Étienne qui revient bien ne sont pas aussi un peu meilleurs
que ce qu'ils étaient les derniers. Le niveau monte alors.
Non, j'ai pas dit que le niveau
alors,
montait.
Tu dis quoi en fait alors
Je te dis que le niveau de certaines équipes peut-être est meilleur que celle de la saison passée.
Et c'est le niveau des équipes qui est monté qui a fait baisser Lyon. Bah quand donc, tu perds Marseille.
Quand tu perds des points c'est effectivement, ça, en fait. Bah oui, non mais quand tu perds des points, tu les perds les points,
c'est pas Marseille qui a baissé tout seul.
Non, Marseille, ça fait trois fois que je te dis que je les mets à part.
D'accord.
Marseille, je t'en parle pas.
Et Lyon?
À la limite, Lyon, je veux bien qu'on en parle. Marseille, ils sont pas bons depuis le début. C'est même super bien pour eux qu'ils sont encore là à 27 points aujourd'hui. Marseille. Ça, je suis d'accord avec toi. Ils sont pas bons depuis le départ. Il y a un Thauvin qui marque des buts et qui les sauve tout le temps. Heureusement pour eux. Après le reste, Lyon, moi, j'écarte pas le fait que Lyon, en perdant une fois contre Paris, une fois contre Nice, ne puisse ne pas être une équipe bidon qui joue qu'une mi-temps sur deux comme tu dis. Peut-être qu'il y a aussi des équipes en France qui sont costauds aussi comme Lille et comme Montpellier par exemple et comme Saint-Étienne même je les rajoute.
D'accord.
Bah tiens, puisqu'on évoque Lyon,
un championnat qui est formidable alors.
Non,
puisque ça fait plein de super équipes.
Je te dis pas ça, je suis pas en train de te dire que c'est tout rose ou tout noir, c'est pas ça.
On a vu que des matchs formidables avec des équipes qui ont même pas deux points par match. Donc on n'a pas perdu par rapport à l'année dernière, à l'année d'avant.
Il peut y avoir des raisons.
T'avais 3 ou 4 équipes.
Il peut y avoir d'autres raisons. Je te dis pas que c'est parce que la Ligue 1 est devenue formidable. Je te dis pas ça. Je te dis qu'il peut aussi y avoir d'autres raisons.
C'est parce que les équipes sont devenues plus fortes. Ok, super. C'est ça.
Tiens, on va voir Montpellier Saint-Étienne peuvent faire une meilleure saison que l'année dernière à cette époque-là.
Puisqu'on parle de Lyon, on va accueillir Alain, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Alain.
Salut à l'équipe, à l'homme qui a les plus beaux le papillon.
Merci Alain, c'est gentil.
Bonsoir.
Voilà. Bon,
on n'est pas nombreux à en mettre, hein, je te rassure.
Ouais, c'est vrai. Monsieur Rioux, je rêvais d'être dans une émission où il était là. Et Pierre, que je connais un petit peu moins, mais moi je vais rejoindre plutôt Pierre que Daniel. Moi je pense que ça s'est nivelé ni par le haut ni par le bas. En fait, la moyenne... c'est resserré et effectivement je suis d'accord sur des et à la fin de l'année on verra, on aura le PSG toujours devant, mais je pense que Lyon ils auront la constance et ils seront encore sur le podium et on aura une équipe surprise derrière Montpellier ou Lille peut-être, mais très certainement, et celui qui a le jeu le plus constant, je pense Saint-Étienne. On aura les deux ennemis, je pense qu'ils peuvent être sur le... Et ce qui fait, pour rebondir du fait de ce nivellement, et là pour rejoindre Daniel quand il dit que certaines équipes et la plupart des équipes jouent une mi-temps, voilà pourquoi moi qui suis né à la génération des multiplex radio, je préfère aujourd'hui regarder un multiplex et avoir pendant 1h30 les meilleurs moments de tous ces matchs où ben Lyon il va jouer qu'une mi-temps, Saint-Étienne aura joué qu'une mi-temps, Lille contre un autre aura joué qu'une mi-temps, mais moi j'aurais eu l'apanage de toutes les belles
actions. Ouais, t'as eu que le bon, quoi. C'est bien, Alain, parce que, en fait, dans ton argumentaire, t'es en train de démontrer toi-même à quel point ce que tu dis est faux. C'est bien?
Comment ça?
Ben, qu'en fait, le niveau a largement baissé. Ce que tu dis nous prouve, alors que tu as commencé en disant que tu étais plutôt pas d'accord, mais ce que tu dis prouve totalement que le niveau a baissé. Parce que, en fait, tu préfères même regarder le match. Ça veut dire que tu ne regardes même pas le match entier de ton équipe.
C'est parce que t'as peur de t'emmerder.
C'est formidable. Merci de ton
répondre, Alain. Laisse-le répondre, vas-y, Alain.
Non, mais je lui dis d'avance merci. Après, il peut développer.
Daniel, j'ai pas dit que ça avait tiré vers le bas. Je te dis que je préfère, comme tu le dis toi, que certaines équipes ne jouent qu'une mi-temps, voire et avoir le privilège d'avoir vu toutes les belles actions qui se sont déroulées pendant 1h30, que effectivement me faire chier sur une deuxième mi-temps d'un match ou d'un autre. Mais pourquoi
donc je te redis merci d'avoir démontré que ce que je disais était vrai.
Mais Daniel, c'est le fait également des systèmes de jeu. Aujourd'hui, avec ces systèmes bloc défense, machin, tout ça, l'équipe qui va venir jouer.
Alain, encore un argument en ma faveur, merci beaucoup.
Mais l'équipe bloc défense, c'est ça.
Daniel, rassure-moi, mais en Liga, en Première Ligue, d'ailleurs pour en commenter beaucoup des matchs de Première Ligue, ça arrive très souvent, en Serie A, je sais pas, là où les matchs que tu vois que des matchs pleins et réguliers partout ailleurs?
Plus que chez nous.
Alors qu'il y en a un peu plus peut-être, mais moi je peux dire que j'en vois plein où les deux périodes ne se ressemblent pas non plus et où t'as des équipes qui sont très bonnes une période et qui sont beaucoup moins bonnes l'autre période. En Première Ligue ça arrive aussi même avec des grosses équipes. C'est très 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 dur d'être régulier tout un match et toute une saison.
Je sais qu'on n'est pas forcément très fan des stats, enfin surtout toi d'ailleurs Daniel, mais c'est vrai que là on disait tout à l'heure Lille deuxième avec 34 points, Lyon troisième avec 32 points. J'étais en train de regarder la saison dernière au même moment à la 19e journée, le deuxième de Ligue 1 c'était Monaco, ils avaient 41 points, donc c'est-à-dire 7 de plus quand même. Ouais. Et le troisième, bah pareil, 41 points, et c'était Lyon justement. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain retard par rapport à la saison dernière. Ça peut être rattrapable sur la seconde partie de saison.
Est-ce que ce retard il est parce que Lyon est très mauvais alors comme très irrégulier semble le dire, mais très irrégulier voilà, ou est-ce que c'est comme Alain, ou moi on essaye de l'expliquer parce que parfois t'as aussi peut-être des équipes qui viennent et qui chatouillent un peu les gros comme Lille, comme Montpellier, comme Saint-Etienne cette saison, et ben tu perds des points et quand tu perds des points t'en manques pas autant que la saison d'avant.
Moi je pense qu'il les chatouille parce que les équipes sont pas à fond, parce que les équipes jouent pas bien, parce qu'elles ont baissé de niveau,
en fait c'est complémentaire. Lui
elles chatouillent pour des raisons qui ne sont pas positives.
Toi t'établis un constat et Daniel il donne des explications.
Je suis pas fou non plus, je rejoins Daniel. Intrinsèquement, si Lyon est à bloc tout le championnat et va tirer le maximum de tous ses joueurs tout le championnat, on est bien d'accord que ni Saint-Etienne, ni Montpellier, même ni Lille ne suivraient Lyon. On est bien d'accord. Mais à un moment donné, c'est le foot aussi, Daniel. Et dans tous les championnats, ça existe. T'as des équipes plus fortes qui n'arrivent pas à jouer aussi bien que ce qu'elles
ne
devraient tout un championnat.
Et
ça laisse la place à d'autres équipes.
Lyon et Marseille ne devraient pas être si loin du PSG. Au max, il devrait être 5-6 points.
Si tu veux, c'est un constat sur Lyon.
Pas 5-6 non plus.
Franchement,
à part la Première Ligue aujourd'hui, je dis une connerie. La Liga cette année, c'est quand même particulier, tant c'est serré.
Regarde l'Italie. En Bundesliga, t'as Dortmund 42, Munich 36, Gladbach 33. 31.
Non mais le PSG c'est à part, ça que je veux dire, c'est comme la Juve en Italie.
Et alors déjà il y a 10 points avec le troisième, c'est ça tu me dis là.
Il y a une planète quand même entre le PSG et les autres.
Je suis pas sûr que l'écart devrait être aussi grand. Peut-être. Qui ont des moyens, qui devraient être plus forts.
On peut s'amuser à gagner le championnat. Moi je veux bien, mais en Bundesliga tu me dis que le troisième il a 10 points sur le premier, c'est ça? Bah c'est pas non plus. Qu'est-ce qui se passe alors?
Bah c'est le double en France.
Allons.
Ah bon?
Allons.
Donc sur le troisième par rapport au PSG. Hein?
Au 15 points.
Le troisième.
15 points.
Ouais. Bon, bah c'est déjà 5, c'est beaucoup. Déjà,
ils avaient 5 de plus.
C'est plus un match en moins que
sur le troisième. Bon, il y en a peut-être aussi en Allemagne des matchs en moins ou des matchs, je sais pas.
Non,
il n'y a pas eu de gilets jaunes.
Il n'y a pas eu là-bas.
Il n'y a pas eu les gilets jaunes.
On remercie Alain, en tout cas, qui était avec nous. Alain, bonne fête à toi, mon Alain. Tiens, justement, pour un peu dans la continuité de ça, aussi, est-ce que le mercato, finalement, il va pas, chambouler les choses? Est-ce qu'il peut, transformer la deuxième partie de saison? Je sais que tu voulais en parler également, Pierre. Parce que c'est vrai qu'il y a notamment deux clubs qui sont assez symboliques de ça. C'est Lille qui est deuxième au classement.
Chelsea a 11 points de retard sur Liverpool. T'imagines? Chelsea, un club comme Chelsea sur Liverpool, 11 points. Comment on explique ça?
Franchement.
Bah non, mais c'est vrai.
Il y a pas de débat possible. Si tu veux
United,
comparer la...
United
si tu veux...
a presque 20 points d'écart avec Liverpool.
Si tu veux comparer comment la qualité comment on explique de la première
ça
ligue avec notre
bah non, mais comment on explique ça?
C'est honteux, quoi. Tu
mais non,
pas faire
mais
ça.
Bien sûr que non. Tu me parlez de chiffres et vous me parlez de points. À ce moment-là, on peut en parler. Arsenal 37, Liverpool 48, 11 points de moins.
Football, bordel. Et ben, je vais dire que la première ligue, c'est pas plus intéressant à suivre. Arrête.
Mais si, mais c'est peut-être plus intéressant. Mais comment tu expliques cet écart, alors?
Ok.
Arsenal est pas bon. Manchester est nul. Chelsea est bidon.
Tu as raison.
Bah, je sais pas.
Notre championnat rivalise avec la première ligue.
Je te donne des chiffres comme tu me donnes des chiffres sur la Ligue 1.
Je te dis que tu as raison. Je peux pas faire plus que ça.
Je te dis pas que Chelsea est moins bon que, est moins bon que ça t'étienne.
La première ligue rivalise avec
la première ligue. Oui, mais ils ont combien de points, Chelsea?
C'est fantastique.
Chelsea a 37 points.
Et ils sont quoi?
Ils sont quatrième.
Bon, nous, le deuxième, il a 34 points. Après 19 journées, tu vois. Avec une journée de plus.
Une victoire.
Fantastique.
Non, mais d'accord, mais ils sont
18 matchs joués, Chelsea.
Oui, voilà, mais justement, le deuxième de Ligue 1, il compte moins de points que le quatrième.
Une victoire. On parle d'une victoire.
Oui, mais Pierre, il y a deux places d'écart.
Si on veut parler chiffres, à ce moment-là, et purement chiffres.
Moi, je te parle purement.
Vos arguments tiennent pas. Je suis désolé.
Le seul chiffre que j'ai sorti, c'est la différence entre l'année dernière et cette année au niveau des équipes de tête, Pierre.
Alors là, je te rejoins. Et moi, là-dessus, j'ai un argument pour te dire qu'il y a peut-être des équipes qui ont fait perdre des points à ces équipes-là. Ça peut être ça aussi.
T'en es même à parler de la première ligue par rapport à notre championnat. Sois sérieux.
Tu as été me parler de la Bundesliga, Daniel. Je peux te parler de la première ligue.
Même la Bundesliga. Regarde les matchs. Tu verras, quoi.
Mais non, mais arrête avec ton regarde les matchs. Tu regardes pas tous les matchs de Bundesliga et de Première Ligue non plus. J'en commande 10 fois plus des matchs que toi. Et moi aussi, je les vois, les matchs.
Si tu les commandes, tu devrais quand même savoir que la Première Ligue, c'est quand même plus intéressant, non?
Mais non, je ne parle pas d'intéressant. Je te parle, tu me parles en équipe, en Ligue 1, d'une équipe comme Lyon, qui devrait pas être à tel okay, nombre Pierre, de points du PSG.
Raison,
non, mais laisse-moi finir.
Je peux
comparer avec la première ligue avec une équipe comme Chelsea qui ne devrait pas à ce moment-là être à 11 points de Liverpool à ce moment-là.
Tiens, précision.
C'est exactement la même comparaison.
Quand je regarde jouer ce match Chelsea, ça me paraît quand même un petit peu mieux que Montpellier au niveau du jeu.
Mais je ne t'ai pas comparé Chelsea et Montpellier sur le jeu, Daniel.
C'est le jeu qui m'intéresse. C'est ce qu'on voit.
C'est le jeu. Tu me parles de points depuis tout à l'heure.
Non, les points, je te l'ai juste comparé les équipes de tête de cette année.
Oui, tu me dis que Lyon, c'est pas normal qu'il soit à 15 points du PSG.
Oui, c'est pas normal.
Moi, je te fais la même comparaison.
On serait pas d'accord, les gars. Non, juste une petite précision, c'est Fabrice sur l'application d'Eric Sudo qui nous le dit, et il a raison. Tout à l'heure, quand je comparais le bilan comptable à la 19e, il y a quand même des matchs en retard.
En plus.
Oui. Mais bon, il y a quand même 7 points d'écart entre le premier de l'année dernière et celui de cette année, quoi.
Ah ouais, mais t'imagines s'il y a une équipe qui gagne ces deux matchs, disons qu'il n'y en a plus qu'un point de retard.
C'est pas jouable. Enfin bref.
Ils ont bien mal retard.
Pierre qui se fait chier en regardant les matchs et quand t'arrives la finale.
Non, dis pas n'importe quoi, Daniel. Voilà. Je me fais pas chier en regardant
non,
tous les matchs.
Pas tous les dimanches.
Bien sûr qu'il y a des matchs chiants. Bien
tous
sûr.
Les dimanches.
Et je peux dire même des fois je commande des matchs de première ligue et je me fais chier toute une période aussi.
Okay. La prochaine fois, je les noterai tous à chaque fois que tu le dis.
Bah, tu peux. Tu peux. Par contre, tu diras pas de noter quand je me régale devant un match aussi comme celui de Saint-Etienne hier ou comme sur la première période de Bordeaux aujourd'hui. Tu ne diras pas de noter.
Je noterai bien.
Alors le mercato peut-il transformer donc la deuxième partie de saison? C'est un peu la question qui se pose, que tu te poses également, Pierre. Et ça concerne alors deux équipes symboles de ça. Donc Lille deuxième, qui devra vendre cet hiver puisqu'ils vont passer devant la DNCG et qu'ils ont besoin d'engranger des millions. Et puis Monaco. Alors c'est vrai qu'on a vu hier en conférence de presse Thierry Henry se plaindre en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les joueurs que j'ai. Alors c'est un peu ce qu'il voulait dire, des joueurs de la réserve quoi. Falcao qui a réclamé des renforts également. C'est vrai que on entend ça de plus en plus dans pas mal de championnats et pas qu'en France. Il y a certains entraîneurs qui voudraient que le mercato hivernal disparaisse. Parce que finalement, il fausse le championnat.
Mais on se demande même parfois. Je suis agent de joueur aussi, donc je vais pas prêcher pour ma paroisse parce que c'est une période où on peut faire. Il y a des mouvements et on peut travailler aussi. Mais on se demande presque si au bout d'un mois et demi de championnat, mi-août, fin septembre, il y a pas des clubs, des entraîneurs, enfin ou même des joueurs. D'ailleurs, ça va rejoindre un peu ce que Daniel disait. Même des joueurs qui attendent déjà fin septembre, début octobre le mercato d'hiver. Des présidents aussi, par exemple, pour refaire un peu l'équipe, pour retoucher un peu l'équipe. On a l'impression que sportivement, on a encore un joker. On attend le mois de janvier. Et alors, une équipe comme Monaco, effectivement, qui plus est quand c'est une équipe de Monaco. Comme Monaco, pardon, qui est derrière et qui a des difficultés, parce qu'avec les millions qu'ils ont engrangés, Monaco, ils vont pouvoir faire un vrai mercato, mais pas d'hiver. Ça va être un mercato d'été. Là. Ils peuvent, s'ils en ont envie, hein, ils peuvent dépenser quelques dizaines de millions d'euros. Est-ce que sportivement, au niveau de l'équilibre, enfin, au niveau de l'équité sportive, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Je suis pas certain. Voilà. Une équipe comme on va revenir à la même chose, mais comme Saint-Etienne, comme Montpellier ou d'autres d'ailleurs, comme Strasbourg qui réalise une première partie de saison honnête, doit dépendre de ce type d'équipe comme Monaco qui se plante sur le mercato d'été ou en tout cas qui décide de vendre allègrement.
Ouais, c'est un marché de réajustement aussi. Il y a des équipes qui se plantent. peuvent se relancer grâce à ça.
Ouais, mais est-ce que le mercato d'été serait le même si ces équipes-là n'avaient pas la possibilité l'hiver de voilà.
Et ça permet à des clubs comme Lille qui ont des difficultés financières aussi de pouvoir respirer un peu.
Ouais, mais
faut l'anticiper, c'est ça.
Bah, il faudrait l'anticiper. Il faudrait pouvoir, à mon avis, hein, il faudrait pouvoir l'anticiper. C'est quand même au niveau de une fois de plus, hein, on se place là sur un plan moral uniquement. Après, on aime bien le mercato d'hiver. Voilà, il y a des mouvements. Nous on travaille pour les. Je pense que pour les supporters, c'est sympa. Ouais,
parce
qu'il y a
encore toujours à parler.
Voilà, il y a des choses qui se passent, etc. Donc tout le monde aime bien ça. Mais sur un plan de l'équité sportive ou sur un plan moral, pardon, je suis pas sûr que ce soit si valable que ça. Est-ce que Lille, un club comme Lille, ne doit pas commencer sa saison à l'équilibre, sans compter sur un mercato de janvier, par exemple? Est-ce que Monaco ne doit pas un peu moins vendre l'été pour pas se mettre en danger sportivement, sans compter sur un mercato de janvier pour se récupérer? Voilà, c'est une question. Je sais pas si un jour ça existera de supprimer ce mercato d'hiver, mais sur le plan de l'équité sportive, je pense que la question se pose.
Daniel.
Ouais, ça existe maintenant depuis des années. Moi, je me pose même plus la question. Il faut faire avec les règles qui sont en place, parce que de toute façon.
Mais après, il y a des vrais débats là-dessus. Il y a des discussions, hein, vraiment. Même la FIFA, il y a eu des.
Les règles ont changé un jour, tu vois. Elles peuvent être changées dans.
Oui, mais c'est pas un combat qui m'intéresse vraiment. S'il le change, il le change. Si voilà, pourquoi pas. Oui, peut-être à une époque, je trouvais ça un petit peu fou. Maintenant.
On s'est habitué, quoi, tu veux dire.
Ouais. Voilà. Franchement, si des gens veulent débattre de ça et si jamais un jour ça devient vraiment une question où les instances disent on l'arrête, bon, je serais pas contre. Hein, je me battrais pas en revanche pour le voir maintenu. Tu vois ça, jamais de la vie. Maintenant, ça existe. Il faut faire avec ces règles-là. Monaco, je sais pas s'ils vont se sauver grâce à ça parce qu'ils partent de très très loin. Hein, parce que Monaco, déjà, il faut qu'ils se refassent une équipe.
Ils ont les moyens de prendre un gros mec du lourd par ligne, un par ligne, tu vois.
Ouais, mais
ça peut te changer quand même grandement l'équipe avec 2-3 blessés que tu récupères importants. Bon, les blessés ils sont chez toi et t'as le droit de les récupérer à un moment donné quand même. Mais tu peux prendre un défenseur central patron derrière qui va te rééquilibrer le truc. Tu peux prendre un mec à côté de Falcao.
Ou un mec à la relance. Hein.
Et ça va peut-être pas être si facile que ça pour Monaco, parce que l'air de rien, là où ils sont aujourd'hui...
Monaco est avant-dernier, avec 3 points de retard sur Dijon qui est barragiste, ils ont que 2 points d'avance sur Guingamp qui est dernier.
Hein. Ouais, voilà, tu
sais que Monaco...
En même temps, tu veux du lourd, et en même temps, ces joueurs-là, je sais pas s'ils sont...
Faut les convaincre.
Ouais, faut les convaincre de venir dans une équipe qui est avant-dernier.
Ouais, donc,
voilà, c'est ça.
Monaco, ils ont gagné 3 matchs. Ils ont 13 points. On se sauve à combien? À 38.
Ouais, 38.
Combien de points faut prendre?
Maintenant, t'es barragiste
à 38?
Bah, 25.
Ok.
Ouais, c'est le nombre de points là, par exemple, de Reims ou Nice qui sont 9e et 10e.
Donc, faut qu'ils aillent prendre 25 points sur la fin de retour.
Ouais,
parce qu'au bout d'un moment, tu vois, moi, je suis pas super fort en maths, mais
après, tout est relatif.
Je regarde et tout. Faut 25 points, ça veut dire, faut aller chercher. Bon, après, tu peux faire des nuls et tout, mais on va dire 6. Bah,
ouais, il faut au moins 7 victoires. 6-7 victoires.
Et
7 victoires, ça te fait 4 nuls en plus. C'est non, mais c'est loin d'être facile.
C'est une mission, il faut vraiment espérer que
Amiens
Dijon soit super mauvais, quoi. Alors allez les prendre les 25 points pour Monaco quand on a pris que 13. C'est-à-dire, en gros, il faut que tu fasses une deuxième phase deux fois meilleure.
Ouais, c'est clair. Tiens, on va accueillir Alexandre, très, supporter très de l'ASM, qui nous a appelé.
La chance, c'est que t'as des équipes avec toi encore.
Tout salut, Alexandre. Te sauver.
Ouais.
Ouais. Ça va, Alexandre?
Ouais, ça va, tu
veux pas. Bah, ça va.
Très mal avec l'AS Monaco.
Ouais, bah, justement. Comment, c'est vrai, enfin, t'en as des points à aller chercher, là, en deuxième partie de saison. Tu t'attends, justement, toi, à un mercato agité, là?
Un mercato agité, oui et non. Oui, j'attends à ce qu'il y ait des joueurs qui arrivent. Mais non, je m'attends pas à avoir des joueurs, environ de classe mondiale à venir à Monaco. Tout simplement parce que j'imagine très mal voir des joueurs, de gros joueurs, venir dans un bourbier, dans la situation dans laquelle est l'AS Monaco. C'est impossible de s'imaginer ça. Il faut
bah, c'est
un
vrai,
neuf.
Hein.
Bah si, alors ça veut dire qu'ils viennent, mais pas pour les bonnes raisons, quoi.
Bah oui, voilà. Bon, après, on
va...
C'est très compliqué. Après, moi, s'il faut dire qu'est-ce qu'il faut pour l'AS Monaco, oui, c'est déjà un ou deux joueurs par ligne. Déjà un neuf, parce que Falcao, j'ai tout le respect pour Falcao, pour ce qu'il a fait à Monaco, même si parfois ça a été compliqué, mais c'est plus ce que c'était. Un ailier gauche, un milieu défensif, allez, un défenseur central et surtout un gardien, parce que Benaglio, il a fait. Oui. J'ai toujours trouvé que Benaglio avait fait un début de saison convenable, malgré il avait toujours été présent. Mais sinon, voilà, c'est plus possible. Badiachil derrière en tant que goal, pas le défenseur. C'est pas non plus le cas. Et encore, après, il y a
mais les mecs que tu vas recruter, d'abord, je sais pas qui sont les grands noms dispo, mais qu'est-ce que tu vas leur vendre?
Bah, c'est ça. Bah, à part les avantages fiscaux pour des joueurs étrangers aujourd'hui.
Donc tu vas leur vendre un contrat de 6 ouais. mois ou en mercenaire qui venait sauver le club quoi.
Non, mais tu peux leur filer un contrat de 2 ans en disant voilà, t'as une clause de départ en cas de relégation à temps.
Tu peux mettre des clauses.
Et mettre des clauses et lui dire et puis écoute, on va investir dans les prochaines années, et lui mettre une carotte au bout du bâton, mais c'est vrai que c'est
tu peux trouver les moyens mais les joueurs dont vous parlez, il va falloir les trouver sur le marché.
Ouais ouais.
Et puis l'air de rien, c'est que t'as quelques joueurs qui sont arrivés dès cet été et qui ne donnent rien aussi quoi. Donc il faut pas se retromper quoi. Monaco n'a pas rien dépensé cet été non plus.
Franchement, c'est plus de 100 millions. La compo alignée contre Guingamp, tu lis l'équipe,
c'est quoi cette équipe?
C'est quoi cette équipe? Elle fait flipper l'équipe.
Ils sont passés où? Il n'y a plus personne.
C'est ce que disait Falcao à la fin du match.
Il n'y a plus personne.
Merci d'avoir été avec nous, Alexandre. Ouais, bonne fête à toi.
Merci.
Salut, ciao,
merci.
Ciao. Ciao, Alexandre. On va accueillir Hervé, qui est supporter des Verts, qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Oui, vas-y.
Sur Monaco, si jamais il devait descendre,
ouais.
Ce qu'il a aujourd'hui est
pas du tout impossible.
Est le cas, ouais. Le modèle de Monaco.
Ils vont être riches en Ligue 2.
Le modèle de Monaco qui a eu une réussite qui, à mon sens, par rapport à ce qui était prévu au projet, a été extraordinaire. C'est un titre de champion, une demi-finale de Ligue des Champions, enfin deux beaux parcours même en Ligue des Champions, un titre de champion. Je pense que c'était, par rapport à ce qui était prévu, même extraordinaire. Mais il prend quand même une claque dans la gueule, le modèle, si tu descends. Parce que ça veut dire, et c'est un message envoyé à tous ceux qui ne veulent faire que ce genre de modèle, ce qui est la mode dans le foot.
Ils l'ont trop poussé, ce modèle, en fait. Ils ont été trop gourmands.
Et ils l'ont trop poussé, Pierre, mais en même temps, c'est à peu près le modèle que beaucoup veulent copier.
Mais tu pouvais trouver un meilleur équilibre, quand même, entre
le pire, c'est que beaucoup veulent le copier sans mettre autant d'argent. Parce que n'oublions pas que Krivolovia, il a mis beaucoup d'argent. Donc c'est le modèle trading qui prendra une grande claque dans la parce que c'était le modèle, on va dire, abouti, Monaco.
Oui, mais c'est parce que là, c'est comme dit Pierre, c'est-à-dire, ça a fonctionné pendant 4-5 ans, et ils se sont dit, bah tiens, ça marche, tous les ans, ça fonctionne, bah, cet été, on va pousser un peu plus, et là, ils sont allés à l'excès, quoi.
Voilà.
Ils ont vraiment tout lâché, là, pour le coup.
Non, mais le modèle, comme il a eu ses excès-là, il a eu aussi sa réussite.
Bien sûr. Dans l'excès aussi, ouais.
On est dans l'excès. C'est-à-dire, ça envoie un message. Faites attention quand vous faites votre trading de joueurs, parce que voilà où ça peut vous mener. De la même façon que Lille. Là, ça marche bien cette année. Ils sont pas du tout là où ils devaient être. Mais ils passent devant la DNCG, ça marche pas. Il faut vendre 2-3 joueurs. Peut-être qu'un joueur va partir, plus 2 là-bas. Et l'année prochaine, tu te retrouves à jouer la Coupe d'Europe et tu vas te casser la gueule. Et ça se trouve, tu joueras peut-être le maintien. Parce que si t'as la Ligue des Champions qui te prend la tête, t'encaisses les sous d'un côté, le mec est content, il redistribue un peu parce qu'il a des dettes. Pendant ce temps-là, à faire 2 matchs par semaine, ça nique un peu tout le reste. Franchement, je te dis la vérité, j'exècre tellement ce modèle que ça me ferait presque plaisir. C'est dur de le dire, mais pour les Lillois, pour tout ce qui est en train de se faire à Bordeaux, ce modèle de cette pensée du football, ça me fait chier.
Mais il y a pas que ici,
bien sûr qu'il n'y a pas qu'en France.
Ah bah je vais te dire, ça se fait même mieux ailleurs très souvent qu'en France.
Oui, voilà, exactement.
Dans la demande
des clubs,
parce que
c'est intégré quoi. Il nous faut un joueur qui dans un an ou deux peut nous représenter une
plus-value. Ces modèles-là me débectent tellement que limite ça me fait plaisir.
Ce que ne permet pas
comprennent la limite de ce truc-là, parce qu'en fait tu n'écris rien, tu ne racontes rien.
Et surtout, je voulais te dire,
c'est une insulte aux supporters, à l'histoire d'un club, en fait, ces modèles-là.
Pierre, ce que ne permet pas, à terme, t'as raison.
Bien sûr,
à terme, t'as raison, sauf que les supporters de Monaco pendant 2 ans et demi, ils ont kiffé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont pas vu venir, le truc.
Tu sais ce que c'est? C'est un peu comme le dopage au vélo. Est-ce que t'es prêt à foutre ta carrière en l'air, genre à mourir à 45 ans si tu gagnes 3 Tours de France?
Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que ne permet pas, pardon.
Mais t'as kiffé pendant les trois ans.
Pendant les courses.
Hervé nous attend depuis tout à l'heure, les supporters des Verts, ils voulaient réagir sur le fameux podium qui se resserre. Salut Hervé!
Salut Nico, salut les gars.
Salut Hervé.
Bon, Hervé, Sainté, 5e, 30 points, voilà, avec 18 matchs après 18 journées. Je sais, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du débat qu'on a eu tout à l'heure, justement, sur la fameuse course au podium? Et où finalement, voilà, on disait, bon, bah, il y a peut-être plus de suspense, mais est-ce que le championnat n'est pas en train de se niveler vers le bas?
Niveler par le bas, je sais pas, mais en tout cas, un petit peu de suspense pour la composition du podium, même si au final, et ça me fait mal aussi, mais je pense que Lyon va, à un moment donné, se remettre la tête à l'endroit et arriver à jouer autrement qu'un match sur 2 ou un match et demi sur 3. Pour Sainté, on a la marge de progression qui nous fera que fatalement on y sera sur le podium. Pour l'instant, on est deuxième équipe à domicile et on est 18e équipe à l'extérieur. Donc si on arrive à garder la dynamique à la maison et qu'on améliore un tantinet soit peu la dynamique à l'extérieur, fatalement, je veux dire, ça sera mathématique, on va se retrouver sur le podium. Maintenant, pour cette histoire de podium, et rebondir un peu sur ce que vous disiez par rapport au mercato, Saint-Étienne, pour le coup, on a fait un peu l'inverse sur le mercato l'année dernière. J'entendais Pierre tout à l'heure, tu prenais un exemple Saint-Té et Montpellier en disant c'est dommage que ces équipes qui ont fait un bon début de saison se retrouvent tributaires d'équipes qui vont pouvoir un petit peu tout bouger au mercato et que ça va fausser le championnat.
Mais oui, Saint-Étienne l'a fait l'année dernière. Oui.
Et l'année dernière, c'est ce qu'on c'est a clair. Fait. Nous, du coup, on était 16e il y a un an jour pour jour, 18 ou 19 points.
Et très bon mercato et au mois de janvier.
Voilà, ouais. Super mercato au mois de janvier, avec un modèle en plus de foot, comme vous parliez là, complètement opposé à ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire on a gardé les deux papis Caiazzo et Romeyer à la tête du... Enfin, on a gardé, ils n'ont pas voulu laisser leur place, alors qu'à un moment, il y avait un fonds d'investissement qui devait arriver. Mmh. On a pris des joueurs qui étaient revanchards, certains avaient l'optique de la Coupe du Monde, donc ça aussi, c'est un peu particulier pour les mercato d'hiver. Mais voilà, on a réussi à faire un bon mercato et danser une bonne dynamique pour le club. Honnêtement, avec les arrivées qu'on a eues cet été, Casri notamment, Diony qui est comme une recrue cette année, parce que même si c'est pas encore folichon, il est
c'est
en
mieux.
Train de, c'est beaucoup mieux. Bon, il partait de tellement bas qu'il pouvait pas faire vraiment pire. Mais voilà, je crois qu'un bon mercato pour nous cette année, le bon mercato, ça serait honnêtement de pas toucher, de rien toucher, à part peut-être si on a une occasion. Comme on a eu l'année dernière de Debuchy, Envila, des joueurs qu'on n'attendait pas du tout à Saint-Té avec leur pédigré. Si on arrive à choper un mec du même pédigré au poste du numéro 9, je pense que ça peut le faire pour les Verts cette saison, clairement. Quoi.
Eh ben c'est dit. Merci Hervé, bonne fête à toi Hervé.
Merci ciao, à vous,
à bientôt. À vous. J'y crois à fond.
Ciao Hervé. Ciao, ciao.
L'avantage, le seul avantage de l'homogénéité que je décriais tout à l'heure, c'est que j'espère que ça va motiver les équipes sur la deuxième partie de saison en disant bon bah comme c'est ouvert, comme c'est tout était vers le bas,
on va aller chercher quelque chose.
On peut peut-être aller chercher quelque chose. Si les ça gars, peut motiver les mecs,
on y va. Jenny nous attend. Première ligue les gars. Ah oui oui. Ils vont ils sont passés de choses extraordinaires ce week-end en première ligue. Et puis alors là vous savez qu'il
non. Non. Il est là Jenny.
Encore. Pourquoi?
Je l'attends. Il y a la pub.
Oui.
Vas-y.
Allez, on vous attend dans quelques instants avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo.
Première ligue, des choses extraordinaires.
RMC, Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Ducrot et Daniel Riolo et Julien Laurence aussi qui nous rejoint. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien. Le mec, Jenny. Il s'est régalé parce que, alors je disais.
Attends, il fallait que je fasse mon
le intro. Spectacle. C'est en première ligue que ça se passe, Daniel.
Eh ben non. C'est en championship, mon vieux.
Ah, je savais que t'allais me parler de ça, Daniel. Ah bah ouais. Marcelo Bielsa,
on en a pas parlé depuis le début de la saison, mais bon, il se trouve que, évidemment, je suis ça d'un œil, forcément, que j'ai vu un super reportage avant-hier sur je ne sais plus quelle chaîne, mais qui disait qu'effectivement, en Angleterre aussi, parce qu'il y a que dans les pays de football qu'on comprend qui est Marcelo Bielsa, il y a qu'en France qu'on l'aura traité comme un va-nu-pied. Mais en Angleterre, bah voilà, Leeds, tout le monde l'adore, il va marquer l'histoire du club. Et je vais même te dire, et même peu importe ce qui va se passer sur la fin de saison, c'est ça qui est formidable.
Tiens, je vous donne le classement vite fait du Championship. Alors, c'est une saison de taré, hein. Il y a quoi, 24 équipes, non? Ouais, 24 équipes.
Bah, de toute façon, c'est un championnat d'une difficulté.
Ah, puis les équipes qui en Championship maintenant.
Leeds est leader avec 48 points. Ils ont un point d'avance sur Norwich. Troisième, on a West Brom avec 42 points. On a quatrième, Borough. Il y a pas mal de noms, d'ailleurs, qu'on connaît bien. Derby County est cinquième, Pierre, avec 39 points.
Là, les équipes qui en Championship aujourd'hui, c'est fou. Regarde les derniers de Championship, tu vois qui
voilà, sont. Alors, t'as Sheffield United, t'as Nottingham Forest quand même.
T'as Aston Villa, t'as Bristol, t'as
Blackburn qui a été champion aussi en première ligue.
T'as Sheffield
Wednesday.
T'en as.
Reading.
Regarde les derniers. Bolton
ils sont avant-derniers.
Le Championship anglais, c'est. Enfin, Julien peut nous en parler. C'est énorme.
Alors Julien, pas le Championship, mais la première ligue, tu t'es régalé cet après-midi, Everton-Tottenham.
Ah, il me dit pas un mot sur...
Alors, pas un mot juste sur Bielsa, alors, sur Leeds.
Il va
sur
une phrase, sinon il va nous faire la gueule.
Les dix derniers leaders à Noël en Championship sont tous après montés en première ligue à la fin de la saison, ce qui est plutôt un bon signe pour Bielsa et Leeds, même si on sait qu'avec Bielsa, ça peut... un moment partir un petit peu en sucette, mais pour l'instant il a des jeunes joueurs, la plupart qui viennent du centre de formation, qui est un très bon centre de formation à Leeds, qui ont l'intensité qu'ils souhaitent, qui font le pressing qu'ils veulent, qui font tous les efforts qu'ils souhaitent.
L'engouement à Leeds, qui est une vraie ville de foot, hein, avec une histoire, les mecs sont tarés là-bas, ils sont fous de lui, quoi.
Complètement.
complètement fou de lui. Il leur a redonné ce rêve de retrouver l'élite. Hein. C'était un club qui était quand même très important en première ligue il n'y a pas si longtemps que ça, et qui après avoir fait un peu n'importe quoi financièrement, eh ben s'est retrouvé en faillite, a dû repartir de zéro. Et aujourd'hui, grâce à Bielsa et avec ce centre de formation là et quelques achats à droite à gauche comme Kemar Roof par exemple, leur attaquant qui vient d'Oxford, qui sont allés chercher à Oxford en troisième division. Ils sont pour moi c'est le meilleur football du championship, et il y a vraiment des belles équipes hein, dans le championship parce que ils jouent exactement comme Bielsa le veut, ça va vers l'avant, il y a la verticalité, ça court dans tous les sens et pour l'instant ben ça gagne hein. Ils ont 14 victoires je crois, 6 nuls et 3 défaites seulement pour l'instant sur la première partie de saison, c'est vraiment impressionnant. Quatrième meilleure attaque et troisième meilleure défense, un truc comme ça.
Autre match impressionnant donc, c'est ce 6-2 Tottenham à Goodison Park face à Everton. Quel match hein.
Ouais, incroyable, un score de tennis, et Tottenham qui, depuis la défaite à Arsenal en championnat.
Ils reviennent à 2 points de City, hein, Tottenham. Ouais. Ça, c'est quand même, c'est-à-dire, c'est passé totalement inaperçu, tellement on se disait, ça se joue entre City et Liverpool, et ben, Tottenham, ils reviennent à 2 points des Citizens, là.
Et à 6 points, donc, de Liverpool. Alors, 6 points, ça reste encore une distance assez importante, mais dans la forme dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est leur meilleur départ, bien sûr, dans l'histoire du championnat anglais. Pochettino, qui, malgré toutes ces rumeurs de Manchester United, du Real Madrid, etc., ne semble pas affecté du tout par tout ce qui peut être écrit ou dit à la télé ou à la radio ici en Angleterre. Et puis, t'as quand même, quand Harry Kane n'est pas dans un super grand jour comme aujourd'hui, par exemple, même s'il marque un doublé, mais c'est Son qui est absolument exceptionnel, vraiment. Hein, 5 buts lors des 6 derniers matchs de Première Ligue. Dele Alli, qui a seulement 22 ans, on aurait tendance à l'oublier, mais qui là sur les 6 dernières semaines, 8 dernières semaines, est dans une forme exceptionnelle. C'est une équipe quand même qui a baladé le Barça au Barça, certes un Barça déjà qualifié en Ligue des Champions, mais qui a quand même fait une performance assez incroyable là-bas. Et ils ont vraiment tout pour eux en ce moment. La seule chose qui leur manque, c'est leur stade, et on attend toujours quand le stade va être prêt. Ils font que de reculer l'échéance à chaque fois. On espère que ce sera prêt peut-être pour le match au mois de mars contre Arsenal, le match retour en championnat. Mais c'est pas sûr. Et c'est vraiment ce qui leur manque parce que jouer à Wembley, c'est quand même, c'est pas chez eux. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien du tout. Le jour où ils seront en plus chez eux.
Mais c'est prévu quand alors la première dans le nouveau stade?
Il vient de le dire, ouais. Peut-être.
Ils espèrent.
Parce qu'il n'y a pas de date encore.
Non, il n'y a pas de date officielle. Alors, le match de Ligue des Champions, le match aller contre Dortmund, visiblement, serait un tout petit peu trop tôt, ce qui doit être le 12 ou 13 février, je crois, arrive un tout petit peu trop tôt. Ils sont un peu dégoûtés d'ailleurs, parce que ce qu'ils voudraient pas, c'est que ça tombe sur un match en bois, genre ils ont Crystal Palace aussi à la fin du mois de février, je crois, ou un autre club bidon.
Ouais, tant que ça vient, match en bois ou pas.
Oui, c'est sûr, mais tu vois, je veux dire, si tu peux l'ouvrir sur un Tottenham Arsenal ou un Tottenham Dortmund, c'est encore mieux, quoi.
Et alors Liverpool qui s'est imposé 2-0 face à Wolverhampton, ça c'était vendredi, et Manchester City surtout qui a perdu à domicile face à Crystal Palace, avec notamment alors l'un des buts de la saison déjà, la patate de Townsend, elle extraordinaire.
Incroyable. Le but de la saison, hein. Déjà, je pense qu'ils peuvent arrêter les votes dès cette semaine, parce que je sais pas qui pourra battre celui-là. Pour les gens qui l'ont pas vu sur RMC, c'est assez simple. C'est d'abord un coup franc excentré, le ballon qui arrive dans la surface, Bernardo Silva qui repousse le ballon de la tête, en l'air un peu comme il peut, et quoi, au 25 mètres, Townsend arrive pied gauche, il la reprend de volée, mais elle a volé, l'équilibre qu'il a dans son geste est juste incroyable, et elle va en plein dans la lucarne d'Ederson qui peut absolument rien faire. Et un but qui vient 2 minutes après l'égalisation de Jeffrey Schlupp qui arrive sur la première frappe de Crystal Palace dans cette rencontre. Le but de Townsend, c'est la deuxième frappe de Crystal Palace dans ce match-là. Et on l'avait déjà dit, hein, pour le match contre Chelsea, où City avait concédé l'ouverture du score de Kanté sur le premier tir, encore une fois, de Chelsea. Ils ont cette tendance en ce moment, malheureuse pour eux, à concéder des buts sur un premier tir ou un deuxième tir, où là, par exemple, il y a 3 tirs cadrés de Palace, 3 buts. Et c'était un problème qu'avait déjà connu Pep lors de sa première saison au club, où à chaque fois que l'équipe adverse frappait, il y avait but. Et je sais pas si c'était un manque de réussite, moi, sûrement un petit peu, mais si c'est aussi défensivement, il fait pas, que les joueurs font pas les efforts qu'il faut, qu'il a du mal lui un petit peu à trouver la cohésion défensive pour empêcher ce genre de.
Mais t'as raison, moi je me souviens de ces matchs il y a 2 ans où genre il dominait, l'équipe mettait le nez à la fenêtre une fois et but, et c'était genre à la punition, quoi.
Après, ouais, il doit y avoir sûrement un peu de ce que je dis, Julien, mais quand tu prends des buts comme aujourd'hui, les deux frappes qu'ils prennent, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas faire grand chose.
Ouais, tu peux pas faire grand chose, mais quand toi de ton côté tu manques un peu d'efficacité.
Exactement.
Comme ils l'ont fait.
Bah, tu sais quoi, j'allais te dire, moi pour moi le problème de City sur un match comme ça, c'est peut-être plus les 20 frappes qu'ils font et où ils en mettent que 2. Plutôt que les 5 frappes qu'ils prennent ou ils en prennent 3 parce que ouais, le but de Tosin, tu peux rien faire, même la frappe croisée de Schlupp, peut-être sortir un petit peu plus pour le défenseur qu'en face de lui, mais c'est surtout un problème d'efficacité, je trouve, pour City, moi.
Mais tu sais, il y a une stat qui, selon moi, démontre bien qu'ils ont un peu paniqué quand même et qu'ils avaient peut-être pas le contrôle du match comme on a l'habitude de les voir, notamment à domicile. Ils font 45 centres quand leur avant-centre c'est Gabriel Jesus d'abord, ouais. Et après Sergio Agüero, qui sont pas non plus les meilleurs gens de tête passes, encore si t'avais Giroud et je sais pas un autre mec super fort de la tête, tu dirais bon d'accord les centres, ouais. Je veux bien, mais 45 centres dans, ouais, un match
dire,
comme
dans
ça,
les 30 derniers mètres ils ont eu du mal à combiner pour aller,
ouais,
pour trouver des solutions.
Tout ce qu'ils ont fait, c'est centrer. Ils centraient, ouais. D'ailleurs le but de De Bruyne du 3-2, c'est un centre de la droite qui rate en fait et qui se transforme
en
but
raté,
Tiens, voilà. Julien, il reste une minute. Un mot tout de même sur la première de Solskjaer en tant que nouveau manager de Manchester United.
Tout le monde dit, c'est parti là.
5 buts 1, alors à Cardiff.
Une minute juste.
Ça, à Cardiff, alors équipe qu'il avait entraîné d'ailleurs déjà en première ligue également.
C'est en flamade ou pas?
Il y a un petit peu là. Là, je voyais les lignes de presse
non,
et tout.
Quand
il y a...
même pas, sincèrement.
Bon, quand même, Julien.
C'est... Non, mais après, regarde, encore une fois, t'as des signes qui ne trompent pas. C'est la première fois qu'il marque 5 buts en championnat.
Mourinho l'a jamais
fait. Dernier match de Sir Alex. En 2013, donc Mourinho, Moyes, Van Gaal, jamais avaient marqué 5 buts, leur équipe avait marqué 5 buts en championnat. C'est la première fois de la saison en championnat où ils courent plus que leur adversaire. Hey. Et pour moi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
Ah, oui.
Que c'est la première fois, et d'ailleurs tu l'as bien vu, les latéraux ont joué beaucoup plus haut,
ouais, bien sûr.
Tout le monde a fait des courses vers l'avant, mais aussi à la récupération du ballon pour récupérer le ballon plus vite dès qu'il a la perte du ballon.
Julien.
T'as senti dans l'envie, dans l'énergie qu'ils avaient. Alors, je veux bien qu'à un moment... Les joueurs rentrent sur un terrain pour gagner à chaque fois, peu importe qui est l'entraîneur, mais voilà, c'est pas anodin, je pense, que pour le premier match depuis Mourinho, eh ben qu'on retrouve ce genre de stats là.
Très bien, voilà. Donc victoire 5-1 avec Pogba titulaire, Martial buteur également dans ce match.
Et Pogba impliqué sur 4 des 5 buts. Hein.
Dont
le dernier, la passe décisive en profondeur pour Lingard, qui est absolument magnifique dans le toucher de balle et dans le.
Maintenant, ce qu'on attend forcément pour United, c'est leur prochain gros match. Pour voir un peu ce que ça donne, quoi.
Parce que là, on avait bien expliqué, hein, que c'était aussi peut-être la raison du timing de l'arrivée de Solskjaer, c'est que c'était une bonne période au niveau du calendrier, puisque là, il y avait donc ce match à Cardiff.
Non, mais après, on attend un gros match pour voir si vraiment il y a un vrai changement,
oui, voilà,
s'ils sont
ça.
Plus forts. Je sais pas, ils jouent un des top 5 et ils gagnent le match en étant supérieur.
Allez.
Ah, tu dis, ah merde, il y a vraiment un truc à changer.
Tu peux pas répondre, Julien, c'est fini.
Bah, ce sera Tottenham le 13 janvier, pardon. Juste pour finir là-dessus. Ouais. Tottenham, Manchester United le 13 janvier à Wembley.
Bah, ça va être bon. Joyeux Noël, Julien.
Merci, Merry Christmas.
Merry Christmas.
Joyeux Noël à tous, les amis.
Merci, joyeux Noël. Merci, Pierre. Merci,
Daniel. Messieurs,
mangez bien.
Voilà. Tout à fait. Soyez prudents.
Enfin, toi, pas trop, surtout, Nico.
Moi, je peux plus faire de sport, en plus. Je me suis fait le métatarse, là, je te raconte pas.
Aïe,
j'ai vraiment mal, là.
Amusez-vous bien.
Profitez. Merci à tous et à tous. Merci, Cyprien Bétou. Merci aux équipes techniques de Quentin Barber. Passez un excellent Noël. Beaucoup d'amour. Pensez à ceux qui sont seuls aussi. Allez, bisous. Ciao, ciao.
RMC Football Show. L'After Foot.